Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Raconte! Et j'aimerais vous inviter à prendre ma place pour que vous puissiez raconter. Mais bon, chaque année, on le fait au culte du 31 décembre, où chacun peut se mettre devant et raconter ce que Dieu a fait. Nous le savons, Dieu, Jésus, est mort sur la croix à notre place, par amour, pour nous sauver. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Mais quand on raconte cela à quelqu'un qui ne croit pas, il va nous dire, mais qui prouve que c'est vrai? Et en fait, je lisais dans Facebook, il y a quelques jours, un article, un aumônier qui visitait un malade en prison, à l'hôpital, un malade qui était en phase terminale, à quelques jours de mourir. Et ce malade demande à l'aumônier, mais qu'est-ce qui prouve que tu as raison? Qu'est-ce qui prouve qu'après la mort, Dieu est encore là? L'aumônier était un peu perturbé, il n'a pas su quoi dire. Il a simplement dit, mais oui, Jésus est mort sur la croix à ta place. Bon, ben d'accord, mais est-ce que tu peux le prouver? Bref, dans cet échange, l'aumônier était un petit peu désarçonné. Et donc, j'aimerais ce matin vous encourager à réfléchir. C'est le temps des vacances. On est là, allongé dans le sable. Bon, peut-être pas à Clermont. À Clermont, on est allongé dans l'herbe verte ou moins verte, selon les régions. Et on regarde les nuages passer. C'est l'occasion de réfléchir, de prendre le temps. On n'est pas pressé par les agendas. On n'est pas la tête dans le guidon. Prenons le temps. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Tout ce qui est écrit dans la Bible, on le sait, Dieu l'a fait. Il est mort sur la croix. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a fait de moi personnellement? Alors, vous me connaissez pour la plupart. J'étais missionnaire au Cameroun. Comment c'est arrivé? Quand j'avais 17 ans, je réfléchissais sur ce que je voulais faire dans ma vie et j'ai lancé comme ça, je veux être missionnaire. Ah oui, mais à 17 ans, c'est pas évident. Et en fait, il s'est passé 9 ans. J'ai poursuivi mes études, j'ai eu mon bac, j'ai commencé des études supérieures et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur bâtiment. Rien à voir avec un travail missionnaire. Et pourtant, Dieu avait tout préparé. Dans l'église où j'étais, un jour, lors d'une conférence missionnaire, il y a eu un appel. La mission a besoin d'ingénieurs en bâtiment. Boum ! C'est là que j'ai compris que Dieu fait des choses dans nos vies. Ce qui nous arrive, ce n'est pas par hasard. Dieu a permis que j'ai cette volonté, et sans que je sois conscient tout au long du cheminement de mes études, eh bien, le moment choisi par Dieu, j'étais prêt. Bon, ça a pris 9 ans. Voilà, donc des fois, soyez patients. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et moi, j'étais un peu frappé ces derniers dimanches par l'enseignement, par la louange et les témoignages qui ont été donnés à l'Église par ceux qui présentaient cela. Et entre autres, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, Elliot nous a témoigné que Dieu a pris soin de lui pendant ses 24 dernières années. Depuis qu'il est tout petit et qu'il fréquente cette église. Alors bien sûr, il l'a reconnu. Il y a des embûches, il y a parfois des difficultés, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et à travers chacun des chants de louange qu'il nous a proposés, c'était pour lui l'occasion de se souvenir de ce que Dieu a fait dans sa vie et de témoigner de la présence de Dieu à chaque instant. Et d'ailleurs, les chants qu'on a chantés ce matin étaient aussi très forts. Moi, j'aime bien en particulier celui qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Ça, franchement, c'est un des chants que j'apprécie particulièrement. Et il y a 15 jours, Nicolas, l'ancien, nous a fait la prédication sur le programme de Jésus, c'est-à-dire sur le serment sur la montagne qu'on peut lire dans Matthieu, les chapitres 5 à 7. Et pour ceux qui fréquentent l'Église depuis quelques années, vous vous souvenez, c'est un texte que nous avons étudié dans les groupes de maison. Comme c'est important de ne pas oublier, de prendre le temps de revenir en arrière, de repasser dans nos cœurs tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est vrai, ceux qui n'étaient pas présents, mais pourquoi pas, on peut toujours faire des séances de rattrapage. C'est très édifiant d'étudier ce texte, ce programme que Jésus nous donne en tant que disciples. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, Pasteur T nous a apporté la vision que Dieu lui a mise sur le cœur pour notre Église, en trois points. Une Église qui chante les louanges de Dieu, et ce matin, nous l'avons fait. Une Église de disciples qui font des disciples, ben ça, nous apprenons chaque dimanche, tout au long de l'année, à le faire. Et une Église qui agit, qui part en mission. Voilà, nous avons encore peut-être des efforts à faire dans ce domaine, mais nous avons des activités, que ce soit dans le domaine du social ou de soutien de missionnaires à l'étranger. Voilà les trois points que Pasteur T a mis en avant comme vision de notre Église. Et sa prédication est disponible d'ailleurs sur le site de l'Église. N'hésitez pas à l'écouter. Le but de son message, c'est en fait de nous encourager à être témoins de ce que Jésus fait dans notre vie chaque jour. Ne pas avoir peur ou ne pas avoir honte d'en parler, de parler de Jésus, et aussi de se mettre en action pour que Dieu agisse encore davantage. Alors, ce matin, je vais prendre l'exemple dans l'Ancien Testament, dans la Bible, de Abraham. Je ne vais pas lire en détail toute sa vie, qui est racontée dans 13 chapitres de la Genèse, mais je vais citer les sept événements clés de la vie d'Abraham. Dans Genèse 12, chapitre 12, verset 1, Dieu l'a appelé et lui a donné une promesse de bénédiction. Abraham avait 75 ans. Au chapitre 12, au verset 7, Dieu promet à Abraham de lui donner le pays de Canaan. Au chapitre 13, Dieu confirme cette promesse. Oui, tout ce pays, tout ce que tu vois, Dieu va le donner à Abraham. Au chapitre 15, Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse et il fait alliance avec lui pour lui donner le pays. Abraham a alors 86 ans. Mais c'est la nature humaine. Il écoute sa femme. Ce n'est pas toujours mauvais d'ailleurs. Abraham écoute sa femme qui lui dit, écoute, moi je n'ai pas d'enfant, donc voici ma servante, prends-la pour femme et pour concubine, afin que j'aie un enfant par elle. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais bon. Un peu plus tard, chapitres 17 et 18, alors que Abraham a 99 ans, Dieu lui promet, oui, Sarah aura un fils. Pour mémoire, Sarah avait déjà 90 ans. Et Dieu donne le signe de l'alliance qui est la circoncision. Au chapitre 21, Dieu demande à Abraham quelque chose de terrible. Laisse partir Ismaël, ça veut dire le fils de sa servante, car la promesse viendra par Isaac. Et Abraham obéit à Dieu. Au chapitre 22, quelque chose d'encore plus terrible. Dieu demande à Abraham, offre-moi ton fils unique, Isaac. Isaac devait avoir une quinzaine d'années. Et Abraham, plus ou moins 115 ou 120 ans. Et en définitive, Abraham est mort dans Genèse 25 à 175 ans. Et sans avoir vu sa descendance prendre possession du pays. Alors, cette histoire d'Abraham nous permet de relativiser. Il s'est passé environ une centaine d'années entre le moment où Dieu a parlé à Abraham pour la première fois et sa mort. Si on fait une moyenne, Dieu a parlé sept fois à Abraham, ça fait donc tous les 14 ans. Et c'est vrai, nous sommes un peu pressés des fois, nous aimerions que Dieu nous parle. Aujourd'hui, demain. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Vous vous souvenez ? À 17 ans, je me disais, je vais être missionnaire, mais ça a pris 9 ans. Mais nous sommes avantagés par rapport à Abraham parce que nous avons la Bible et nous pouvons nous enrichir de tout ce que Dieu a fait dans ces personnages de la Bible. Alors, c'est vrai, nous trouvons le temps long, mais relisons les promesses que Dieu nous a données à travers ces textes et repassons dans nos cœurs tout ce qu'il a fait pour nous. Chaque expérience que fait dans notre vie, une expérience personnelle, c'est comme un rocher sur lequel nous pouvons appuyer notre foi. Donc c'est important de s'en souvenir. Si on construit une maison, nous voulons la construire sur du roc. Mais si nous ne savons pas où ces rochers ont été dispersés dans notre vie, eh bien, au moment de la construction, les matériaux vont manquer. Donc, soyons attentifs à nous souvenir ce que Dieu a fait dans notre vie pour le préparer, pour construire tout ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'exemple de David. David, c'est le roi qui a été choisi par Dieu, non pas parce qu'il était plus grand, plus fort, mais parce qu'il avait son cœur selon le cœur de Dieu. Et tous les autres rois d'Israël et de Juda n'avaient pas leur cœur selon le cœur de Dieu, comme David. Certains se sont même totalement détournés. D'autres ont suivi les recommandations des prophètes, mais pas de tout leur cœur. Et c'est vrai qu'en matière de témoignage, on peut aussi avoir un témoignage négatif, parce qu'on ne suit pas Dieu de tout son cœur, malheureusement. Et c'est vrai, je suis animateur dans le Club biblique jeunesse, et dans le programme annuel, on étudie chaque année les différents rois d'Israël et de Juda, tels qu'on peut les lire dans la Bible, afin de sensibiliser les jeunes à suivre Dieu de tout leur cœur. Et nous avons eu l'occasion d'étudier bien sûr David, qui est le modèle, mais d'autres rois qui ont vécu vraiment une vie, un règne catastrophique. Et peut-être que le nom du roi Achab, ça ne vous parle pas, mais vous pouvez relire les textes. C'était un roi particulièrement méchant, influencé par sa femme. Pour le coup, il aurait mieux fait de ne pas écouter sa femme, mais bon, c'était la reine païenne Jézabel. À la fin de sa vie, toutefois, il s'est repenti. Et Dieu lui a pardonné, comme il nous le promet dans sa parole. Quoi que nous ayons pu faire dans notre vie, si nous revenons à Dieu, si nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Parce que Jésus a tout porté sur la croix. Et Dieu a pu pardonner à ce méchant roi à la fin de sa vie. Bien sûr, les prophètes avaient annoncé une malédiction sur son royaume, et cette malédiction est tombée plus tard sur ses descendants, sur ses enfants. Revenons à David, à son témoignage, comme on peut le lire dans le psaume 143, en particulier le verset 5. David dit « Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains, je tends les mains vers toi et je soupire après toi comme une terre assoiffée. » David a eu une vie très mouvementée, j'y reviens pas. Mais il a pris le temps de s'asseoir, de se souvenir de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il pense à toutes les activités que Dieu a pu faire. Et c'est un bon exemple pour nous. David, qui est le roi selon le cœur de Dieu, c'est un modèle. C'est d'ailleurs un peu le modèle qui annonce l'arrivée de Jésus, qui est le fils de David. Dans le même psaume, David dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » C'est vrai que, d'un côté, se souvenir de ce que Dieu fait dans notre vie, d'un autre côté, prier Dieu pour qu'il nous aide à comprendre quelle est sa volonté et ce que nous devons faire. C'est vrai, surtout pour les jeunes, nous sommes parfois un peu perdus, que ce soit pour faire nos études, pour chercher un conjoint pour partager sa vie. Nous sommes perdus et nous prions souvent Dieu, mais montre-moi quelle est ta volonté. Comme David, nous prions, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Cela nous encourage à avoir l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons pas tout seuls trouver le chemin que Dieu a préparé pour nous. Si nous prions Dieu, il va nous aider et nous éclairer. Parfois, nous sommes dans des circonstances qui semblent contradictoires par rapport peut-être aux objectifs qu'on vise. Moi-même, je le disais, je pensais être missionnaire à 17 ans, mais c'est que 9 ans plus tard que la lumière s'est faite sur ce parcours et que tout était clair. Mais pendant ces 9 années, c'était plutôt mystérieux. Alors, soyez confiants et prenons le temps de demander à Dieu de nous conduire par son esprit. Et pas à pas, oui, ayons cette volonté de témoigner de ce que fait dans nos vies. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. On peut lire, bien sûr, tout le détail dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Toutes les péripéties de ses missions, de ses voyages, lorsqu'il a porté l'Évangile en Turquie ou en Europe, en Grèce, en Italie. Il a vraiment vécu des choses difficiles et je ne vais pas tout détailler. Mais voilà ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, malheureusement, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, mais qui donc est qualifié ? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Donc là, c'était Paul qui écrivait ça dans 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Vous voyez que Paul, lorsqu'il parle de Dieu et annonce l'Évangile, cela a des conséquences. L'Évangile, oui, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ben, c'est un parfum de mort. Pour d'autres, c'est un parfum de vie. Quand on parle de mort, oui, ce sont des paroles qui peuvent nous effrayer. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous hésitons parfois à annoncer l'Évangile, pour ne pas annoncer ce parfum de mort. Est-ce que nous avons vraiment peur de dire clairement à nos proches que celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé ? Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18. Il dit « Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est vrai, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais avant d'être une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Elle nous annonce que nous sommes tous pécheurs et que la conséquence, c'est la mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais ne restons pas sur cette mauvaise nouvelle. Acceptons la bonne nouvelle de Jésus mort sur la croix à notre place et qui nous donne sa vie. Un dernier encouragement que j'aimerais vous donner, c'est à partir de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, où Jean, l'apôtre, qui nous donne ce texte, il annonce la venue de deux témoins. Et voilà ce qu'il dit. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sacs pendant 1260 jours. » Alors l'Apocalypse, c'est vrai qu'il y a des expressions parfois un peu compliquées, comme là, on parle de 1260 jours. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette interprétation. Il y a plusieurs options possibles. Ces deux témoins qui viendront à la fin des temps, qui sont-ils ? Moi, je me pose cette question. D'ailleurs, cette petite méditation, je l'ai aussi trouvée sur Facebook, c'était intéressant. En fait, ces deux témoins n'ont pas de nom. Ils ne sont pas identifiés pour être un peu comme du temps de Jésus. On savait que le prophète Élie et Moïse allaient revenir. Mais là, les deux témoins n'ont pas de nom. On ne sait pas qui c'est. Et finalement, moi, vous, nous tous, nous pouvons nous identifier à travers ces deux témoins et être là dans le monde pour annoncer l'amour et le salut en Jésus. Avec le pouvoir de prophétiser. Ça, ce n'est pas moi non plus qui le dis. Jésus lui-même disait, vous aurez le pouvoir de marcher sur les serpents, etc., de ressusciter les morts, de guérison. Donc ces deux témoins avaient ce pouvoir qui accompagnait leurs paroles. Mais quand on prend position pour Jésus, il y a des conséquences. La bête, hein, l'Antichrist, qui leur a fait la guerre, les a tués. Leurs corps ont été exposés là même où Jésus a été crucifié. Et tous les hommes, je parle bien sûr des impies, des non-croyants, se sont réjouis et se sont fait des cadeaux pour fêter leur mort, tellement ils avaient souffert des fléaux que les deux témoins leur avaient infligés. Quand nous sommes témoins de Jésus, nous pouvons nous retrouver dans des situations compliquées. Et c'est déjà le cas de certaines églises dans certains pays du monde. On parle de la Corée, la Corée du Nord, on parle de certains pays, le Yémen, enfin bref, il y a plusieurs pays où d'être chrétien, d'être témoin de Jésus, ça amène des persécutions. Mais un jour en France, lorsque nous témoignerons de notre foi chrétienne, je ne le souhaite pas, mais Jésus nous a prévenus, nous a préparés, ça peut arriver aussi, donc soyons prêts. Que va-t-on faire si un jour... L'État nous dit, on ne veut plus d'église évangélique à Clermont. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accepter? On va se cacher? Ou est-ce qu'on va continuer à témoigner ouvertement? Préparons-nous, les temps sont difficiles. Mais sachons que Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a ressuscité ses deux témoins et il les a fait monter au ciel. Jésus nous appelle à être ses témoins, à ne pas avoir honte de lui devant les hommes. Même si, bien sûr, il y aura un prix à payer. Alors, être témoin, oui, cela ne sera pas facile, mais une fois cette mission accomplie, Jésus nous fera monter au ciel pour être avec lui. Être témoin, ce n'est pas simplement de prendre la Bible et de dire « Voilà, Jésus est mort sur la croix. » Ok, c'est écrit dans la Bible, donc c'est une bonne chose de le dire, mais c'est aussi de savoir réfléchir à ce que Dieu a fait dans notre propre vie et d'en témoigner. C'est cela qui va toucher les gens, parce que ça, c'est des choses qui sont personnelles. Les choses qui sont dans la Bible et qui sont, dirais-je, de la connaissance publique, hein, tout le monde est capable de lire la Bible et de l'ouvrir et de lire, voilà, Jésus est mort sur la croix. Le croire, c'est autre chose, mais en tout cas, tout le monde a accès à cette information. Mais de ce que Dieu a fait pour nous personnellement, c'est cela qui va toucher les gens. Alors, profitons de ce temps de vacances. Profitons du fait qu'on n'est pas le nez dans le guidon pour nous souvenir, voilà, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Les plus jeunes, vous aurez un peu du mal, mais néanmoins, je suis sûr que vous trouverez des choses... Qui vont vous toucher. Et de vous en rappeler, ça va même renforcer votre foi. Votre foi, elle va grandir parce que chaque élément de rocher et de foi que vous allez emmagasiner, ça va augmenter votre foi. Alors, je vous encourage, pendant ce temps de vacances, réfléchissez à ce que Dieu a fait dans votre vie et surtout, racontez-le. En conclusion, Romains 1, chapitre 1, verset 16, nous dit « En effet, c'est Paul qui parle, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Comme Paul, n'ayons pas honte de dire autour de nous ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen.